Il y a un mot avec mille déclinaisons, un mot qui convoque l'histoire, la philosophie, la politique, un mot comme un cri de guerre contre les particularismes, les replis identitaires, le tribalisme, les hiérarchies, et qui pourtant entraîne mille débats universels.
Pascal Paradou.
Universel, universalisme, pluriversel, postcolonial, planétisation, tous les mots sont en débat dans le nouvel essai de Souleymane Bachir Diagne, intitulé « Universaliser l'humanité par les moyens d'humanité », tel est le sous-titre placé entre guillemets. Bonjour Souleymane Bachir Diagne.
Bonjour.
Philosophe, professeur à l'Université Columbia de New York, vous n'avez de cesse depuis 40 ans de faire dialoguer les traditions africaines, musulmanes et chrétiennes pour interroger justement l'universel. Il était donc logique qu'un jour vous conjuguiez ce substantif.
Tout à fait, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ici ou là, j'ai toujours exploré cette notion d'universel et je l'ai exploré avec une affirmation et puis ensuite des deux concepts. L'affirmation, c'est l'affirmation que nous vivons la fin de l'universalisme, si on entend par là une centralité d'une Europe qui serait par nature détentrice de l'universel et qui serait également par vocation appelée à porter cet universel à tout le monde. Et les deux concepts que j'ai rencontrés dans mes lectures philosophiques et que j'ai en quelque sorte reconstruits sont les concepts d'universel de surplomb et d'universel latéral.
Alors, ça demande explication, forcément.
Voilà. Alors, évidemment, les deux sont employés par le philosophe français Maurice Merleau-Ponty. Et quand il parle d'universel de surplomb, il parle justement d'un universel qui viendrait de haut, c'est-à-dire d'une culture qui se situerait au-dessus de toutes les autres, et en particulier la culture européenne. Donc ce serait l'universalisme dont je viens de parler. En revanche, dit-il, dès lors qu'il n'y a plus cette verticalité qui met une culture au-dessus de toutes les autres, elles se trouvent toutes sur le même plan horizontal. Donc si universel il y a, elles ont à l'inventer dans les relations horizontales, latérales, qu'elles entretiennent les unes avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle il dit que notre époque est une époque où il s'agira pour nous de forger un universel latéral. Voilà la manière dont j'ai essayé pendant plusieurs années, en effet, d'aller dans le sens d'un refus d'un universel qui serait un universel impérial, un universel colonial, mais en même temps d'insister pour dire qu'il ne s'agit pas de renoncer à l'universel, y compris d'ailleurs avec des mots nouveaux comme pluriversalité, vous l'avez indiqué tout à l'heure. Parce que dès lors qu'on signale qu'on est en train de laisser tomber un concept pour en adopter d'autres, il y a là danger, parce qu'on laisse filer la notion d'universel.
Alors, s'il faut garder la notion d'universel, Souleymane Bachir Diagne, pourquoi utiliser le verbe universaliser? Est-ce que c'est de vous, d'ailleurs, ce verbe?
Et ce verbe est de moi. Alors, je vais dire, il est collectivement de moi et de mes étudiants. Parce que vous savez, à l'origine de ce livre se trouve un séminaire que j'ai eu le plaisir d'enseigner il y a exactement un an à l'École normale supérieure, mon ancienne école, et devant les normaliens, ainsi qu'un public invité et attentif. Et donc la discussion de l'universalité latérale m'a amené à considérer que ce qui était plus important, ce n'était pas l'objet universel latéral, mais la pratique d'universalisation ensemble. Autrement dit, ces cultures dont je disais tout à l'heure qu'elles sont toutes situées sur le même plan horizontal, elles vont forger ensemble un universel, c'est-à-dire elles vont travailler ensemble à universaliser ensemble. Et donc le verbe indiquant qu'il s'agit d'une pratique était infiniment plus important dans ce cadre-là que le substantif universalisme ou universel.
Donc c'est une action, c'est un verbe, c'est une action.
C'est une action. Engageons-nous ensemble, ensemble est important, engageons-nous ensemble dans l'action de produire de l'universel, de nous accorder sur un universel, ainsi que nous l'avons fait en 1948 quand il s'est agi de produire ensemble la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Alors il s'agit, et je vais utiliser un autre mot qui vous est cher, Souleymane Bachir Diagne, c'est le mot d'humanisme. Pour vous, cet universel-là, c'est un humanisme.
Absolument, parce que le premier de tous les universels, c'est l'humanité. Si nous ne considérons pas que, malgré leur multiplicité, ces cultures dont je parlais justement sont toutes des cultures qui font fond sur la même humanité que nous avons en partage, à ce moment-là, elles sont simplement juxtaposées comme autant d'îles dans leur séparation radicale, où on dira d'ailleurs même qu'elles sont incommensurables, qu'une culture ne se traduit pas dans une autre culture. Et à ce moment-là, nous n'avons plus la notion d'une humanité partagée. Et donc, insister sur l'universel, c'est aussi insister sur la manière dont il signifie que nous sommes une seule et même humanité, c'est-à-dire que nous avons à la construire, cette humanité commune qui nous tient ensemble.
C'est pour ça que vous n'aimez pas beaucoup ce terme, ce mot de Glissant, de Édouard Glissant, donc le poète écrivain martiniquais, qui parle de pluriversel, parce que c'est de la juxtaposition, le pluriversel.
Je le comprends. Ce n'est pas que je n'aime pas ce mot, je le comprends. Je comprends que le pluriversel, justement, met l'accent sur le pluriel du monde et évite le caractère quelque peu réducteur de l'un dans universel. Mais, comme je le disais tout à l'heure, si on décide de se passer d'un concept pour en adopter un autre, c'est toujours un mauvais signal. On signale à ce moment-là qu'on a laissé tomber, au fond, la volonté de faire un. Parce que faire un, ce n'est pas écraser le pluriel sous l'un, c'est au contraire faire de l'un à partir du pluriel du monde, non pas de la négation de ce pluriel. Je ne veux pas sembler être en train de prêcher pour l'américanisation du monde, mais je trouve que la devise américaine en latin « e pluribus unum », à partir du pluriel « faire de l'un », exprime bien cette, à la fois le respect que l'on a pour la diversité du monde, la pluralité du monde, sur laquelle insistait beaucoup Édouard Glissant et à juste raison, mais en même temps, cet horizon commun, cette humanité partagée, je crois que le mot universel les traduit infiniment mieux que le néologisme pluriversel.
Donc, on va universaliser, point à la ligne, ici et ailleurs. Alors, dans De Vive Voix, nous sommes sensibles à ces questions de décentrement. Voilà un mot sur lequel on pourra se pencher tout à l'heure, car toutes les semaines, nous passons un coup de fil ailleurs. Ailleurs, à Vilnius, avec Pascal Slimanski. Bonjour.
Oui, bonjour.
Directeur de l'Institut français de Lituanie et conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Alors, vous avez décidé, sachant qu'il y a une saison de la Lituanie en France, c'est-à-dire à peu près 200 événements pour faire découvrir la culture lituanienne aux Français, vous avez décidé finalement de faire de même, de rendre l'appareil et de faire découvrir en Lituanie la culture française.
Oui, tout à fait. C'est un projet ambitieux. Hein. L'idée est d'être un petit peu, on appelle ça un écho, puisqu'en fait, l'idée est justement de faire écho à cette saison de la Lituanie en France, avec de nombreuses manifestations sur une durée également de 3 mois, qui a déjà débuté là, entre de mi-septembre et qui durera jusqu'à mi-décembre.
Alors, vous proposez quoi ?
Alors, faut savoir que la thématique est double. C'est le patrimoine et l'écologie. L'idée est à la fois de mettre en valeur les liens historiques entre la France et la Lituanie, bien sûr, et de rappeler nos valeurs communes en tant qu'État européen, mais également de réfléchir ensemble sur les grands défis de demain. Alors, il ne faut pas oublier, bien évidemment, que ce sera une fête, hein, 3 mois de fête pour le public lituanien, avec la mise en avant de la diversité culturelle, la créativité de la France, et d'aller, au-delà même de cette période, créer véritablement des coopérations qui soient durables entre les professionnels français et lituaniens.
Alors, on ne va pas énumérer tous les projets, mais vous en avez un qui est assez important, qui se veut à la fois fédérateur et écologique. Essentiel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on a un projet donc, qui a permis d'ouvrir cet écho, qui est une œuvre magistrale, une œuvre gigantesque, faite par l'artiste Seip, qui est un artiste français qui est reconnu internationalement. mondialement connu par ses fresques en milieu naturel, qui sont réalisées avec une peinture totalement éco-responsable. Et Seipp donc a fait un projet monumental sur la colline centrale de Vilnius, qui est un symbole fort pour la Lituanie. Et cette fresque entre dans un projet plus global de Seipp. C'était la 21e pièce de ce projet, où ce sont des mains qui se tiennent et qui symbolisent la paix et la fraternité entre les peuples. D'ailleurs, cette œuvre avait été faite également sur le champ de Mars, il y a quelques temps.
Alors, il y aura aussi du cinéma, de la musique, du design, mais des opérations de promotion du français aussi. Et alors, pour cela, j'ai vu dans votre dossier de presse que vous avez invité une compagnie de cirque pour apprendre aux Lituaniens le français. J'ai bien dit de cirque.
Tout à fait. Et donc, nous avons pensé à le promouvoir d'une façon un petit peu différente. Et nous avons un lycée français labellisé France Éducation, ici en Lituanie. Et donc, nous avons décidé de faire venir une troupe de cirque qui s'appelle Sous le Manteau, et qui pendant une semaine a fait des masterclass, comme on dit en bon français, et qui a fait des cours de cirque, mais tout ça en français pendant une semaine, ce qui a permis aux élèves d'apprendre le français d'un petit peu d'une façon différente. Et puis, tout ça s'est terminé par un spectacle, alors non pas avec les élèves, parce que pour des raisons de sécurité, nous ne souhaitions pas qu'il y ait un accident, évidemment, ça a été terminé par un beau spectacle.
Donc pas étonnant qu'on dise que l'apprentissage du français, c'est acrobatique. Vous prêtez le flanc.
Je crois qu'on peut le dire. Mais le français progresse ici en Lituanie, donc c'est une belle opportunité pour le faire apprendre d'une façon un petit peu différente.
Merci beaucoup Pascal Sivanski. L'écho français en Lituanie se déroule, comme vous l'avez dit, dans toute la Lituanie et jusqu'au 12 décembre. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Joséphine, viens-tu du jazz ou du mambo? De Rodrigue Sarajevo, du hip-hop, du tango, d'Angola, de Diego, de Chagos. Joséphine, tu sais qu'on peut faire chavirer même le cœur le plus fané sur le tempo du chamamé. Sur la cadence enflammée du fourreau, Joséphine, d'où vient ton âme métisse à cordes longues, à raison de ta digne apostrophe,
Joséphine,
les harmonies fêlées. Du mambo, de Marseille, Porto Novo, du hip-hop, du tango, de Shanghai, de Diego, de Chagos, tes péchés en diamant font un collier au firmament, Joséphine. Tu sais qu'on peut faire chalouper même le cœur le plus blasé sur le tempo du chamamé. Sur la cadence enflammée du fourreau,
le Lojo sur RFI, Joséphine, extrait de Feuilles Fauves, le nouvel album du groupe qui est le coup de cœur ce mois-ci des médias francophones publics. Le philosophe Souleyman Bachir Diagne est aujourd'hui notre invité pour comprendre et rêver l'universel et au passage faire l'éloge de la traduction qui, selon vous, n'est pas qu'un simple travail littéraire, mais bien un humanisme. Et alors que sort votre nouvel essai universalisé, un autre, le précédent, vient être republié en poche, c'est de langue à langue. Donc, la traduction, c'est de l'universel, c'est toucher à l'universel.
Je le crois et je suis heureux d'ailleurs que, de cette coïncidence qui fait que mon livre sur la traduction paraît en livre de poche en même temps que l'universalisé sort. Parce qu'en effet, je parle aussi bien d'universel de traduction. Quand il s'agit de constituer notre humanité comme une seule et même humanité partagée, la traduction est précisément ce qui nous empêche de considérer que nos cultures et nos langues sont incommensurables, que ce sont des îlots séparés. Parce que si, en effet, nos langues sont plurielles, nous avons la traduction pour faire en sorte que nos langues se parlent. Pour faire en sorte, par exemple, que quelque chose comme une littérature mondiale soit possible. Une littérature qui naît dans des langues différentes, bien entendu, mais ces langues se rencontrent en traduction et permettent à quelqu'un qui appartient à une culture ouest-africaine de lire aussi bien Pushkin que Umberto Eco, par exemple.
Mais c'est un exercice quand même très occidental, la traduction. La France est le pays qui traduit le plus, donc il y a quand même là quelque chose d'une colonisation des cultures, non ?
Alors, oui, il y a une manière de lire la traduction qui consiste à dire des langues centrales ou hyper-centrales, et là je reprends le vocabulaire de Pascal Casanova qui dit que les langues, il faut bien le constater, ne sont pas égales. Il y a, dit-elle, une peut-être langue hyper-centrale, ce serait probablement l'anglo-américain, des langues centrales, le français en est une, et des langues périphériques, malheureusement, je crois que la plupart des langues africaines, peut-être pas l'arabe, peut-être pas le swahili en termes démographiques, mais la plupart des langues africaines seraient dans cette catégorie-là. Et donc, on peut penser en effet que traduire dans une langue centrale est une forme de colonisation, parce qu'on s'empare des imaginaires des autres, on les traduit dans sa propre langue pour sa propre consommation. Et en effet, tout un ensemble de travaux ont été publiés sur le thème de la traduction comme violence. Mais la traduction, si on regarde le geste de traduire, si je vois par exemple dans les entreprises des quelques projets de traduction que j'ai eus, ce que signifie pour moi mettre deux langues sur ma table, pour prendre cette image-là, et faire en sorte de donner hospitalité à ce qui s'est créé et pensé dans une, dans l'autre, je les considère à égalité. Je les considère comme deux expressions possibles de la même aventure humaine, de la même grande humanité que nous avons en partage. Et à ce moment-là, dans le geste de traduire, je sens ce que signifie construire un pont entre des cultures séparées, entre des langues séparées. Et c'est là que j'y l'humanisme de la traduction, comme s'il s'agissait de reconstituer ce moment mythique, dont parle la Bible, dont parle également le Coran, où toute l'humanité parlait la fameuse langue adamique, la langue d'Adam et d'Ève. Mais ce mythe, on le reconstitue en quelque sorte lorsque on s'engage dans le projet de traduire et le projet de donner hospitalité, ce mot utilisé par le philosophe Paul Ricoeur s'impose ici, à quelque chose qui s'est pensé dans une autre langue.
Donc, quand on utilise le mot universel, il faut dire selon la définition de Souleyman Bachir Diagne, c'est-à-dire une définition du 21e siècle, parce que ça a souvent été un piège, cet universel et cet universalisme, et vous racontez quelques anecdotes dans cet essai, notamment comment les jeunes Africains ont longtemps appris avec des manuels où il était question de nos ancêtres les Gaulois, vous voyez comment à Bamako ou à Dakar on peut considérer cette phrase-là, mais vous dites que c'était que les profs étaient de bonne foi, que c'était au nom de l'universel.
Mais oui, mais justement, c'est ça qu'il faut bien comprendre en se remettant dans le contexte de l'époque. Alors, évidemment, la France produit ses manuels et enseigne aux élèves français que leurs ancêtres sont les Gaulois. Eh bien, dans les colonies, au moment où on discute pour savoir s'il faut des manuels adaptés aux colonies, il y a une protestation justement de ce qui enseigne dans les colonies au nom de l'universel, protestation qui consiste à dire qu'on ne veut pas un enseignement au rabais. On veut exactement ce qui s'enseigne en France, pour être bien sûr que les exigences sont les mêmes et qu'on ne donne pas aux enfants des colonies un enseignement pour en faire des subalternes à jamais, des auxiliaires de l'administration coloniale. Et à ce moment-là, justement, c'est l'universalisme dans son aspect qui peut nous sembler naïf, qui s'exprime. Il n'est plus question à ce moment-là d'enseigner à Paris quelque chose qui ne serait pas enseigné à Madagascar ou à Dakar ou ailleurs. Et donc, comme je dis en souriant, les Gaulois, en fait, sont les ancêtres des élèves. Voilà, les véritables descendants des Gaulois, ce sont les élèves.
Oui, parce qu'aujourd'hui, cette formule, c'est le symbole même du colonialisme.
Exactement.
Épouvantable.
Exactement.
Donc, il faut quand même décoloniser, désoccidentaliser, c'est un peu compliqué à dire. Et il y a d'ailleurs un mouvement en ce sens encore aujourd'hui, toujours aujourd'hui au début du XXe siècle, qui peut s'appeler l'afrocentrisme, que François-Xavier Fauvel, qui détient au Collège de France la première chaire d'histoire de l'Afrique ancienne, tente de définir.
Ce qui définit principalement l'afrocentrisme, à mon sens, mais ça on peut être en désaccord avec ça, c'est que c'est un courant d'idées qui se dirige contre l'Occident, contre les savoirs établis, contre l'université, etc. Et va avec cette idée-là, l'argument qui, à mon avis, est central dans l'afrocentrisme, c'est l'argument du complot. Une espèce de complot occidental, complot européen, complot blanc, complot universitaire, contre les vrais savoirs qui ont été maquillés depuis l'aube des temps. Ça me semble être les idées centrales de l'afrocentrisme.
Souleymane Bachir Diagne, quel est votre regard, vous, sur l'afrocentrisme ?
Alors, l'afrocentrisme est compliqué à définir. Évidemment, l'afrocentrisme, si c'est une manière pour l'Afrique de se recentrer sur elle-même, on peut le comprendre ainsi. Il faut dire ici une chose, c'est que il est établi, il est vrai, que la décolonisation est un mouvement qui se poursuit encore. C'est-à-dire que, comme l'écrirait Ngugi wa Thiong'o, l'écrivain kenyan, il y a toujours ce qu'on appelle une colonialité qui est à l'œuvre dans le monde, et l'action de décoloniser, le mouvement d'une décolonisation, est un mouvement qui se poursuit encore de nos jours. Mais décoloniser pour universaliser, ceci est une phrase d'Alioune Diop. Alioune Diop, c'est, comme on sait, le fondateur de la maison d'édition Présence africaine, qui a d'abord été la revue Présence africaine. Et désoccidentaliser pour universaliser, c'est une expression qu'il a employée déjà en 1959, lors du second congrès des artistes et écrivains noirs qui s'est tenu à Rome. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Désoccidentaliser, ce n'est pas se mener une guerre de tranchées, ce type de guerre de tranchées qui est une forme de tribalisme. Et j'imagine que ce que Fauvel dénonce ici, c'est le tribalisme précisément des identitarismes radicalement séparés. C'est le séparatisme au bout du compte. Quand, en revanche, il était dit désoccidentaliser pour universaliser, c'était reconnaître en effet qu'il fallait toujours continuer à mener le combat contre la colonialité, décoloniser les esprits, comme dirait également Ngugi wa Thiong'o, c'est le titre d'un de ses ouvrages, mais en même temps, comprendre qu'il s'agit là de se donner un horizon d'universalité. Et donc, les centrismes, de manière générale, de ce point de vue-là, sont à décentrer. Sans
donc
fermer.
Il ne faut pas de centre.
Mais voilà, ce claquemuré dans son identité, les identités, évidemment, sont des données. Et il faut être fier de son identité, il faut évidemment l'affirmer également. Mais affirmer, c'est une citation que je mets en exergue de mon livre, affirmer l'orgueil d'être différent doit toujours se mesurer au bonheur d'être ensemble. Et ceci, c'est une parole de Léopold Sédar Senghor.
Alors, est-ce qu'il faut revenir justement à Senghor et à Césaire, qui sont très très présents dans votre essai, Souleymane Bachir Diagne ?
Il faut rappeler en effet ce qu'il disait, pour deux raisons. D'abord, se souvenir que le mouvement d'une décolonisation n'est pas un mouvement de particularisme contre l'universel. Au contraire, c'est au nom de l'universel qu'ils ont mené ce combat-là. Et donc, se rappeler cela lorsqu'aujourd'hui, on est dans cette idéologie du décolonial, du postcolonial, se rappeler que les décolonisations ont été menées au nom de l'universel et non pas contre l'universel. Césaire parle de l'humanisme universel qui doit être la boussole, et Senghor assigne à toute action la construction de ce qu'il a appelé une civilisation de l'universel. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, évidemment, c'est la profondeur de leur pensée lorsqu'il s'agit de penser la totalité et de penser le contenu à donner à la notion d'universel.
Et l'un et l'autre sont encore présents dans la réflexion des artistes, même dans le rap, pour preuve cette chanson de Youssoupha intitulée « Négritude ».
La rancœur, la pression est telle. Tant de questions pour une culture à la couleur et peine. Et même entre nous on se plafonne. T'imagines pas le nombre de frères qui me conseillent de renoncer à ce titre d'album. Changer la donne, négritude en guise de signature. Cherche pas le mal dans quelques erreurs et quelques ratures. Caricature d'un jeune Renoir dealer. Ça serait plus cool d'appeler l'album Nique ta mère ou bien drug dealer. Me prends pas pour un leader, je suis limité. Je suis un mauvais porte-parole, j'en ai même pas la légitimité. J'ai imité le poète en reprenant ses termes. Je rends à Césaire ce qui appartient à Césaire.
D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel.
Youssoupha qui fait entendre les mots d'Aimé Césaire. Ça vous comble, ça, j'imagine, Souleymane Berchidiane.
Absolument, et effectivement, dans sa musique et dans la citation de Césaire qui est intercalée, tout est dit. Il ne faut pas se claquemurer à l'intérieur de cette négritude. Il faut l'affirmer, bien entendu, à une époque où les civilisations noires sont niées. Il faut l'affirmer à la manière dont Cheikhanta Diop affirme l'antériorité des civilisations noires. Il faut l'affirmer également à la manière dont Césaire, Senghor, Suzanne Césaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ou Gontran Damas ont affirmé, et avant elle, Jeanne Nardal, une forme d'internationalisme noir. Mais en même temps, se rappeler une chose que dit Senghor, par exemple, une citation peu connue. Senghor dit qu'il y a une forme d'internationalisme noir qui est un pan-négrisme, et il dit que ce pan-négrisme, ce n'est pas la négritude. Pourquoi ? Parce que la négritude est faite précisément pour sortir d'elle-même et aller vers le bonheur d'être ensemble. Alors que le panégrisme, c'est une forme d'enfermement sur soi, peut-être correspondant à cette autre notion de l'afrocentrisme dont nous parlions tout à l'heure. Or, il y a un panafricanisme à construire. Ce panafricanisme, c'est un panafricanisme de toute l'Afrique, c'est le continent. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de construire un panafricanisme avec l'Égypte, avec le Maroc, avec l'Afrique du Sud, avec le Togo. Tous les États africains du continent, au lieu de s'enfermer dans une forme de panafricanisme aujourd'hui, qui semble être ce que précisément Senghor appelait le panégrisme, et qu'il opposait, je le cite, au seul pan qui vaille, et il disait ce pan, c'est le panhumanisme.
Donc c'est un chantier encore, c'est un rêve toujours. Est-ce que ce livre est un cri, Souleymane Bachir Diagne ?
Oui, je le dis, parce qu'il faut crier. Parce qu'aujourd'hui, le bruit et la fureur et plutôt du côté des ethnonationalismes et des enfermements. Et donc, il faut crier pour se faire entendre, et il faut dire que malgré toutes les raisons que l'on a de baisser les bras, il y a toujours cette aspiration à l'humanité en direction de laquelle il faut travailler.
L'humanité, le but, c'est les derniers mots de votre livre. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne. Universalisé est édité chez Albin Michel dans la collection Bibliothèque Idée. Par ailleurs, votre précédent livre de langue à langue, L'hospitalité de la traduction, vient de sortir en poche. Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, à demain.